Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle, puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. J'aurais voulu vous parler, incriminer ce que j'ai jamais fait, et de l'Ukraine, bien entendu. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, et je pense que c'est parce que on a des reportages, des récits, qui sont bruts de décoffrage, où il n'y a pas un gramme d'humour. Il n'y a pas de petits dessins et tout ça. Tandis que la solution que j'ai choisie pour cette émission, eh ben c'est encore une bande dessinée du Flubbelub avec Grégory Jarry et Otto T. Et vous conviendrez que c'est quand même nettement moins désespérant, parce que c'est de l'histoire avec un très grand H, c'est-à-dire que c'est de l'histoire passée. Alors voilà, mes chers amis, lors de cette heure, nous allons passer ensemble. Moi, général de Gaulle, je vais vous expliquer par quelle convulsion de l'histoire la France, qui possédait un empire colonial de 12 millions de kilomètres carrés en 1914, est redevenue un pays tout à fait normal au début des années 60. Ce phénomène par lequel un peuple se sépare d'êtres humains dont il a conquis les terres et le cœur, depuis des dizaines d'années, les historiens auraient pu l'appeler « drame d'amour ». Finalement, ils ont opté pour décolonisation. Pour la plupart d'entre vous, décoloniser, c'était comme se tirer une balle dans le pied. Et vous croyez que nous avons été acculés par des indépendantistes fanatiques qui, à force de se suspendre à la jambe de nos pantalons, ont obtenu gain de cause? En réalité, nous avons décolonisé par pure bonté d'âme. À la fin des années 50, il était devenu insupportable à une majorité de Français qu'on broche des électrodes sur les testicules d'un homme pour lui redonner le goût aux bienfaits de la colonisation. Alors nous leur avons rendu la liberté et nous avons arrêté de nous comporter de manière paternaliste avec eux. Cependant, à ceux qui le souhaitaient, nous avons tendu la main et nous avons donné un peu d'argent qu'on a appelé aide au développement. Ils pouvaient l'employer sans contrôle de notre part. Et c'est pas de notre faute s'ils s'en sont servis pour nous acheter des armes. Nous ne pouvions quand même pas empêcher nos anciens compatriotes d'acheter des produits français, ni nos entreprises d'ouvrir des succursales pour leur vendre des verres de cantine ou extraire de l'uranium. L'État français et les nouveaux États décolonisés n'étaient pas en droit d'entraver la bonne marche du commerce. C'est vrai quoi, à la fin? En quelque sorte, la décolonisation fut la privatisation de la colonisation. Alors, première partie, les deux guerres mondiales et le trou au milieu, ou des origines diverses de la Première Guerre mondiale. Je vais un peu vite en besogne, pour le moment nous sommes le 28 juin 1914, le jour de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Funeste événement qui allait précipiter le monde dans le chaos. Et voilà, vous vous êtes fait avoir. Funeste événement qui allait précipiter le monde dans le chaos. Il suffit que je dise un truc ronflant pour que vous gobiez tout. Mes bons amis, réfléchissez un peu. L'assassinat de François Ferdinand ne fut qu'un prétexte. Des François Ferdinand, ils s'en assassinent une bonne dizaine chaque année. Et pour autant, le monde ne se précipite pas du tout dans le chaos. On ne le dit pas assez, mais la guerre de 14 est née de la rivalité coloniale entre grandes puissances européennes. Au début du XXe siècle, les Français et les Anglais avaient manœuvré si joliment qu'ils récupérèrent presque toutes les colonies disponibles. Les Italiens, les Espagnols, les Portugais et les Allemands l'avaient franchement mauvaise. Et la bande dessinée assortie décrit les brèves de comptoir qui déplorent ces spoliations territoriales. Et je vous recommande d'aller dévaliser nos librairies préférées si vous voulez avoir des détails. Change. Normalement, avec le soleil qui tape et les siestes l'après-midi, ça finit toujours par se tasser. Mais le problème, c'est les Allemands. Il n'y a pas beaucoup de soleil chez eux. Et ils ne ramollissent pas facilement. Alors ils se retournèrent contre nous et en 1905, ils nous firent le coup de Tanger. Guillaume II, en personne, débarqua au Maroc, qui n'était pas encore un protectorat, et prononça un discours très anti-français. Alors si vous voulez voir ce que c'est que un empereur viril plein de poils avec des grosses épaules et les moustaches assorties, eh bien, plongez-vous dans la BD. C'est pas triste. Pour le calmer, nous organisâmes une conférence à Algésiras, où nous fîmes la promesse qu'il y aurait un bout de Maroc pour l'Allemagne, dès que suffisamment de Marocains auraient appris l'allemand. C'est-à-dire quand il y aurait une minorité pro-allemande. Les Marocains n'apprennent pas vite et les Allemands ne sont pas patients. En 1911, rebelote, ils nous firent le coup d'Agadir, où ils envoyèrent une canonnière, soi-disant pour défendre 4 ressortissants qui s'étaient retrouvés en slip, sans passeport, dans le désert. Pour les calmer, nous leur cédions d'agrandir leur colonie du Cameroun. Les Allemands sont comme ça. On leur donne l'Alsace-Lorraine et ils finissent par vous prendre un bout de Gabon et l'Oubangui et le Congo. Toujours est-il que d'incidents diplomatiques en assassinat de François Ferdinand, on a fini par avoir la guerre. Le conflit à l'intérieur des colonies se déplaça à l'intérieur même de l'Europe. Rapidement, le front se stabilisa. Chacun se mit à jouer aux cartes dans les tranchées et de temps en temps, nous envoyions à l'assaut de nos bons gros paysans illettrés, précédés de notre botte secrète, les tirailleurs sénégalais. Parmi ces hommes exceptionnels, dont aucun n'est revenu vivant au pays, le plus brave d'entre tous s'appelait Boule de Neige. Boule de Neige se faufilait la nuit dans les tranchées ennemies, puis silencieusement, il coinçait la nuque des soldats allemands sous ses biceps, leur passait ses grosses mains dans la bouche et crac, il leur retournait la mâchoire. Et les vignettes nous montrent qu'un gros Bavarois ne vaut pas un gros Sénégalais. Assez vite, les tirailleurs engagés volontaires d'avant 1914 furent réduits en jus de boudin. Afin d'augmenter les effectifs, on décida de recruter dans toutes nos colonies et on fit de grandes promesses. Une fois la guerre achevée, chacun recevrait la citoyenneté française avec droit de vote, un emploi de facteur et même une petite femme blanche. 600 000 hommes affluèrent de tout l'Empire. Un autre problème se posa. Tous nos bons gros ouvriers avaient également été mobilisés. Alors, qui allait faire tourner les usines? J'entends des petites voix fluettes qui s'élèvent pour dire « les femmes !» et rappeler que leur émancipation date de cette époque. On n'est pas loin du 8 mars. Hein. C'est vrai, certaines femmes abandonnèrent leurs enfants pour enfiler des salopettes de travail. Et on voit ces dames à la tâche. Mais qui chargeait les grosses caisses de munitions dans les camions? Qui brassait les chars en pièces détachées à longueur de journée? Les femmes peut-être? Non, les immigrés, à qui on avait promis, une fois la guerre finie, un emploi de facteur avec fourgonnette et une petite veuve de guerre. 300 000 hommes affluèrent de tout l'Empire. En octobre 1917, les Russes devinrent communistes et firent la révolution. On les a maudits de nous laisser nous débrouiller tout seuls avec les Allemands. Et après la guerre, on les a maudits de se donner en exemple aux pays colonisés, en les saoulant de belles paroles sur l'égalité des peuples riches et des peuples pauvres. Vous connaissez la suite. Verdun, chemin des dames, entrée en guerre des Américains, monument aux morts, etc., etc. Après la guerre, nous nous partageâmes les colonies allemandes et turques avec les Anglais. Nous héritâmes du Cameroun et du Togo, ainsi que du Liban et de la Syrie. En Arabie, le roi Faisal, aidé par Sir Lawrence, avait créé là-bas un royaume indépendant depuis la fin de la guerre. En 1920, nous dûmes envoyer nos troupes pour le destituer et prendre ce qui nous revenait de droit. Ces nouvelles colonies, nous leur avons donné le joli nom de « Territoire du Levant ». Ça faisait presque japonais. La guerre de 14 avait porté un coup au prestige de la France. Au prétexte qu'ils y avaient versé leur sang pour nous, les anciens combattants d'Afrique réclamaient une amélioration de leur sort. Au Dahomey, on fonda un journal anticolonialiste, tandis qu'à Saïgon fut créé le premier syndicat ouvrier. Partout dans l'Empire, on renaclait. Naguère, trois coups de pied bien placés auraient remis du plomb dans les têtes. Et là, nous eûmes la guerre du Rif. Je dis nous, mais la guerre du Rif, c'est quand même la faute aux Espagnols. Suite au traité de Fès de 1912, on s'était partagé en bonne intelligence un protectorat sur l'ensemble du Maroc. Les Espagnols avaient obtenu le Rif et le Sahara, tandis que nous occupions le reste du territoire. Mais tout ça n'était pas bien clair dans la tête des Marocains. Et en 1921, Abdelkrim al-Khattabi, un Rifain, monta les tribus du Nord contre l'autorité espagnole. Le 17 juillet, à Anoual, les 3000 hommes d'Abdelkrim se présentèrent, mine de rien, face aux 18 000 soldats du général Sylvestre. Ils dirent « la baisse », c'est-à-dire « ça va ». Les Espagnols dirent « muy bien ». Les Marocains dirent « la baisse bécher », ça va bien ». Les Espagnols dirent « muy bien, muy bien ». Les Marocains dirent « la belle bécher, hamdoulah ». « Ça va bien, grâce à Dieu. » Les Espagnols dirent « Muy bien por la gracia de los dios. » Et quand tout ne fut que rire et que chanson, les Marocains liquidèrent les Espagnols. En 1922, Abdelkrim fonda la République du Rif, rapidement reconnue par la Société des Nations, ancêtre de l'ONU. En 1925, il lança ses hommes à l'assaut des troupes du maréchal Lyautey, espérant rallier les tribus sous protectorat français à sa république de va-nu-pied. Il mit une belle déculottée à cet imbécile de Lyautey, réellement fasciné par le Maroc, tellement qu'il rechignait à chaque fois qu'il fallait faire égorger un arabe. On remplaça Lyautey par le maréchal Pétain. Les Espagnols s'étaient remplumés et avaient envoyé le plus jeune général d'Europe, un certain Franco. Au total, Français et Espagnols alignaient 450 000 hommes, de beaux avions tout neufs et plusieurs tonnes de gaz moutarde. On s'en donna à cœur joie. Le matin de bonne heure, les avions larguaient le gaz sur les petits villages. Toute la journée, depuis les hauteurs des montagnes, on observait scientifiquement les effets. Le grand journal, l'Illustration, publia de beaux dessins en pleine page. 150 000 civils oublièrent de se mettre un chiffon sur la bouche et périrent dans d'atroces souffrances. Abdelkrim ne tarda guère à donner sa reddition. Il fut envoyé en exil à La Réunion. Cependant, il fut décidé de continuer les bombardements dans un but pédagogique. Les peuples colonisés devaient comprendre, une fois pour toutes, qu'il faut toujours se mettre un chiffon sur la bouche en cas d'attaque au gaz moutarde. Après la guerre du Rif, démarra en Oubangui-Chari, l'actuel sud-ouest de la République centrafricaine, la première rébellion sérieuse en Afrique noire. Le sorcier Carnot, son instigateur, avait ramassé dans la brousse le Congo Vara, un manche de houx auquel il prêtait le pouvoir d'arrêter les balles. Devenu alors invincible, il fit des prédictions nationaliste et autosuffisante, qui se répandirent dans toute l'Afrique équatoriale française, l'AEF, et au Cameroun. Et les vignettes vous montrent les résultats de cette première opération nationaliste africaine Ben, c'est du Sankara avant la lettre. Carnot prêchait qu'il ne fallait plus payer les impôts, alors qu'on s'en servait pour investir dans l'emploi des jeunes. Il appelait au sabotage de la construction du chemin de fer Congo-Océan, prétendant que le taux de mortalité y était supérieur à celui des plantations de coton. Ben oui, on nous a rappelé qu'il y avait à l'époque 1000 morts au kilomètre pour l'installation des voies de chemin de fer. Il prédisait que les colonisateurs allaient se transformer en gorilles et qu'ils seraient fouettés par les autochtones jusqu'à la fin des temps. Mais les autochtones vinrent nombreux pour écouter Carnot, le prophète, et ils ne rirent pas. Des chefs de guerre qui ne se parlaient pas hier, tels Komanda, Beranjoko, Zaolé, Kongolo et Mbeka, tombèrent dans les bras les uns des autres. Et par-delà les dissensions tribales, ils unirent leurs sagaies contre les mitrailleuses des Français. Ils construisirent des pièges, tendirent des embuscades, et il s'en fallut d'un cheveu crépu pour qu'ils réalisent l'unité politique de leur pays.
We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Montgomery, Alabama. They said, we are not afraid. And the young people taught everybody else a lesson. All the older people that had learned how to compromise and learned how to take it easy and be polite and get along and leave things as they were. The young people taught us all a lesson.
We are not afraid.
The whole wide world around.
C'est une belle histoire que je suis en train de vous raconter. Mais rassurez-vous, elle ne durera pas bien longtemps. Raphaël Antonetti, le gouverneur de l'Afrique équatoriale française, face au soulèvement d'une population de 500 000 individus, demanda des renforts au gouvernement français et on marcha sur le village de Carnot, en rasant tout sur notre passage. Arrivé là-bas, on cassa le Congo-Vara sur notre genou, on logea une balle dans la poitrine du sorcier et on exposa son corps pendant plusieurs jours pour bien montrer qu'il était bien mort. Les autochtones se persuadèrent que Carnot allait revenir, qu'il allait nous changer en gorille ou au minimum en chimpanzé. Et ils se battirent avec plus d'ardeur encore. Inlassablement, nous traquâmes les rebelles pour leur prouver qu'on n'était pas des singes. Nous avons tué 10% des gens qui vivaient dans ces contrées. C'est pitoyable, nous aurions dû en tuer beaucoup moins. Nous nous arrangeâmes pour qu'aucun livre d'histoire ne mentionne jamais ces événements. Que le pays civilisé qui ne l'a jamais fait nous jette la première pierre. La révolte écrasée, nous décidâmes du passé de faire table rase en organisant une merveilleuse opération de communication, l'exposition coloniale internationale de 1931. Tout entière tournée vers la glorification des empires, elle présentait les colonies et protectorats de toute l'Europe, France, Belgique, Pays-Bas, Angleterre, Portugal, etc., sans oublier les églises catholiques et protestantes, ainsi que plus de 200 grandes entreprises. L'exposition accueillait sur 110 hectares des pavillons en veux-tu en voilà. On avait bâti un palais africain à la mesure de la grande mosquée de Djéné, une reproduction grandeur nature du temple d'Angkor Wat, un immense zoo où les bêtes vivaient en semi-liberté, des fontaines majestueuses illuminées la nuit. Il s'y mangea 2 millions de barbapapa en regardant les petites danseuses foulas de Sigiri au sein nu ou les guerriers kanaks au pagne très long pour pas avoir froid aux genoux. Au total, l'exposition coloniale accueillit 8 millions de visiteurs, soit un cinquième de la population française. Dans le même temps, le Parti communiste organisa une contre-exposition qui évoquait la possibilité que certains peuples colonisés, en un ou deux endroits ciblés de l'Empire, n'étaient pas tout à fait satisfaits de leur sort. Cette contre-exposition fit 4200 entrées. Mais il est aujourd'hui certain que les organisateurs obligèrent leur famille à y retourner plusieurs fois pour faire gonfler les chiffres. Dans la France de l'entre-deux-guerres, l'anticolonialisme n'intéressait personne, à part peut-être Félicien Chalais ou André Gide. Ces écrivains se payaient de beaux voyages dans les colonies, revenaient toujours mécontents et publiaient des pamphlets pour dire qu'ils étaient tombés sur une cervelle de mouton frelatée dans un boui-boui de Marrakech ou qu'ils avaient eu de gros cafards dans leur chambre d'hôtel à Brazzaville. Et toujours, ils faisaient porter le chapeau à l'administration coloniale. Il y avait aussi Aimé Césaire, qui roulait des mécaniques parce qu'il avait inventé un nouveau concept à la mode, la négritude. Extrait du cahier d'un retour au pays natal, publié en 1939. Négritude est composée du préfixe nègre et du suffixe itude. En gros, négritude veut dire l'habitude d'être un nègre. Nous, maintenant, on est habitués, alors ça va. Mais il faut comprendre nos ancêtres. Au début, ils avaient du mal à s'y faire. Le concept de négritude est un peu plus large, comme chacun sait. Puis vint la Seconde Guerre mondiale, qui permit à un modeste enfant de la patrie de jouer le tout premier rôle dans les destins conjugués de notre empire colonial, de la France elle-même et du monde. J'ai nommé, moi, le général de Gaulle. Ce n'est pas tellement que j'aime me mettre en avant, vous savez bien. Mais avouez que les événements qui vont suivre sont d'une cruciale importance dans notre vie de tous les jours. Dès juin 1940, dans mon petit bureau de Londres, j'eus cette intuition qu'il fallait rallier l'Empire à la France libre si on voulait avoir une chance de libérer la France asservie. Je forçai la main aux gouverneurs coloniaux qui s'étaient rangés sans réfléchir sous l'autorité de Vichy. Une à une, les colonies basculèrent dans notre camp. Tchad, Cameroun, Ubangi-Chari, Gabon, Congo. J'ai eu un petit souci avec la Syrie et le Liban, à qui nous dûmes concéder l'indépendance afin qu'ils se rallient. C'était ça ou rien. Et les vignettes montrent De Gaulle en train de faire un numéro de séduction téléphonique. Et puis quelquefois, il prend une bâche. En novembre 1942, le Maghreb était libéré et je fondais à Alger le Comité français de libération nationale. L'heure était à la reconquête de la métropole. À la conférence de Brazzaville, je promis plus d'égalité pour les colonies, plus d'éducation, plus de médecins. Je promis qu'on bannirait le terme d'empire et qu'on ne parlerait désormais que d'union française. Une armée de 350 000 indigènes se leva et ensemble nous débarquâmes en Provence et en Italie du Sud. Le 8 mai 45, tandis que nous célébrions la victoire, une grande manifestation se déclencha à Sétif, comme je vous le répète tous les ans au 8 mai, en Algérie. Manifestation qui célébrait bien sûr la défaite nazie et qui réclamait en même temps l'égalité des droits et l'indépendance du pays. Alors que nous avions à peine commencé nos hors-d'œuvre, je leur avais pourtant dit « le moment venu ». Mais ils n'écoutent pas. 2000 soldats appuyés par la marine et l'aviation 5 jours durant commirent une véritable boucherie. Et ça a duré jusqu'à la mi-juillet. Sétif, Kelma, Herata, 45 000 morts. Je m'en mords encore les doigts, car les massacres de Sétif furent la répétition générale de la guerre d'Algérie. Tout ça me donne le cafard si nous parlions d'un sujet plus gai. J'ai déjà dit dans un livret précédent, mais ça ne vous fera pas de mal que je le répète, en 1887, nous avions créé l'Indochine, regroupant Annam, Tonkin, Cochinchine, Laos et Cambodge, sous la bannière de la France. Autrement dit, des peuples qui n'avaient pas grand-chose à voir entre eux. Si ce n'est les yeux bridés, les chapeaux pointus et une charmante manière d'écorcher le français en parlant du nez. Originaire d'Annam, Nguyen Sinh Kung allait faire pour l'Indochine autant que j'ai fait pour la France. Nous étions tous deux nés en 1890, et dans notre jeunesse, nous aurions pu nous croiser dans un petit bistrot du quartier latin, où nous aurions ri et bu comme des cochons. Mais la marche du monde fit de nous des ennemis, car les aspirations que nous avions pour nos pays réciproques n'étaient pas conciliables. Et on découvre que le jeune Nguyen était bon photographe et qu'il exposait et nourrissait quelques fantasmes pendant ses expos. Fils d'un mandarin aisé qui lui avait donné une bonne éducation française, Nguyen Sinh Kung s'installa à Paris après la guerre de 14. Marcel Cachin, directeur de l'Humanité, l'initia au communisme pour se donner bonne conscience. En 1930, il rencontra Mao et sa vie bascula. Il prit le pseudonyme... Devinez le pseudonyme ? qui vaut des dessins avec la tête en triangle et une barbichette terminale et puis des houppettes au-dessus des oreilles. Eh bien, c'était Ho Chi Minh, bien sûr. Celui qui fait comprendre que c'est fini la rigolade. Il fonda le Parti communiste indochinois, à la suite de quoi il créa le Viet Minh en 1941, regroupant les mouvements nationalistes du Vietnam en vue d'obtenir l'indépendance.
Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vœux honorables étaient réservés aux seuls blancs. Nous avons connu que notre fils polié, au nom des textes prétendument légaux, qui ne faisait que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que les noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins d'Européens. Que les noirs voyageaient à même la coque des péniches, au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périt tant de nos frères? Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais dignes de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise.
Profitant de notre relative faiblesse due à l'invasion de la France par l'Allemagne nazie, les Japonais prirent le contrôle de l'Indochine en 1940. Vous savez quelle réputation ils se sont taillés en matière de colonisation. Rappelez-vous le siège de Nankin, par exemple. Nous utilisions la gégène pour faire parler les suspects. Eux leur plaçaient des petits bouts de bois enflammés sous les ongles. Nous rasions les villages des traîtres. Ils décapitaient femmes et enfants avant de détourner une rivière pour tout engloutir sous les eaux. À ce régime, il ne fallut pas longtemps pour que les Vietnamiens nous regrettent. En août 1945, les Japonais se prirent deux bombes atomiques sur la figure et nous fûmes soulagés. Contraints d'abandonner leur colonie, ils préférèrent donner l'indépendance au Laos et au Cambodge plutôt que de voir la France se réinstaller dans la région. Ho Chi Minh en profita pour prendre le contrôle de la Nam, du Tonkin et de la Cochinchine, regroupés en un seul État, le Vietnam. C'était un coup bas que nous portaient les Japonais. Car quand des peuples ont goûté à l'autonomie, eh ben, c'est pas facile de revenir en arrière. Je vous passe les détails, mais il fallut que nous envoyions le général Leclerc pour faire le ménage. Début 1946, nous avions repris le Laos, le Cambodge et la Cochinchine, et nous négociâmes avec Ho Chi Minh pour rétablir notre souveraineté sur la Nam et le Tonkin. Vous n'imaginez pas comme ce fut pénible. Un coup Ho Chi Minh disait oui, un coup il disait non. Un coup il nous montrait un petit oiseau par la fenêtre. À la fin, nous lui claquâmes un gant blanc sur la joue et le 23 novembre 1946, notre marine bombarda Haïphong. Ho Chi Minh revint à la table des négociations. On lui promit un Vietnam libre et indépendant qui ne serait contrôlé que par la France et personne d'autre. Un coup, Ho Chi Minh disait oui, un coup, il nous montrait par la fenêtre un nuage en forme de cheval au galop. Nous eûmes sa réponse définitive le 19 décembre 1946. Hanoï fut attaqué par le Viet Minh. La guerre à outrance avait démarré. et les vignettes nous montrent les rêveries d'Ho Chi Minh. Emmenée par le général Giap, l'armée populaire vietnamienne se faisait et se défaisait au gré des batailles et excellait dans l'art de la guérilla. Par exemple, nous arrivions dans un village en pleine jungle où l'on savait qu'il y avait des caches d'armes. Comme on ne parlait pas leur langue, on se faisait comprendre par gestes. Une fille souriante nous emmenait sur la place centrale. Soudain, le lieutenant sautait sur une mine. Dans la confusion, les villageois sortaient des mitraillettes et nous étions tous morts. Le manque de moyens de communication et la nécessité de maintenir notre présence avec peu d'effectifs favorisaient l'émergence de chefs de guerre qui contrôlaient de vastes territoires. Ainsi, le colonel Jean Leroy tenait-il la région de Ben Tré, en Cochinchine, où il régentait seul un petit état féodal. Soutenu par le Vatican, il avait créé des unités mobiles pour la défense des chrétientés, constituées de catholiques vietnamiens recrutés dans les villages. Ces hommes flairaient le communiste à 30 kilomètres et s'abattaient sur lui avec la sauvagerie du tigre. En 1949, Mao prit le pouvoir en Chine et décida d'aider les Vietnamiens. Nous engageâmes alors nos troupes dans la bataille des routes coloniales frontalières. Nous pûmes sécuriser Hanoï et les grands axes, mais nous butions toujours sur les petits villages. Nous les libérions le lundi et les habitants faisaient une grande fête pour ne pas se faire massacrer. Mais dès le vendredi, ils avaient été reconquis par le Viet Minh et le week-end, nous nous dépêchions de les reprendre si on voulait faire la fête lundi. Petit à petit, nous perdions du terrain et nous sentions que les choses allaient mal tourner. Nous retournâmes à la table des négociations et cette fois-ci nous proposâmes à Ho Chi Minh un Vietnam libre et indépendant, totalement dégagé de la tutelle française, mais qui serait dirigé par Bao Dai, l'héritier de la famille impériale en exil à Cannes, où il était traité en hôte de marque. Ho Chi Minh nous demanda de faire le silence pour écouter la petite pluie fine qui s'abattait chaque jour en fin d'après-midi. Nous étions enlisés en Indochine. L'opinion publique nous lâchait peu à peu. Quand se déclencha la guerre de Corée, je ne sais plus qui a sorti ça aux messes des officiers, mais puisque les Américains rechignaient à nous aider dans un conflit colonial qui n'était pas le leur, on n'avait qu'à dire que c'était une guerre pour faire reculer le communisme. Il y eut des sifflets d'admiration. On rédigea une missive sur le champ. Les États-Unis tombèrent dans le panneau, décidèrent de nous financer à 80%. Et c'est là qu'on balance le napalm. Pendant ce temps, au Laos et au Cambodge, la rébellion grondait. On leur avait pourtant donné une totale indépendance en matière d'impression des papiers d'identité. Mais le succès communiste au Vietnam les rendait voraces et ils menaçaient de se rallier au Viet Minh. Nous apprîmes que l'armée de Giap allait porter ses efforts au Laos. Pour lui couper la route, nous eûmes une idée géniale. Installer une base en plein cœur du territoire ennemi, dans une plaine en forme de cuvette, appelée Dien Bien Phu. À partir de décembre 1953, nous fîmes de Dien Bien Phu ce qui se faisait de mieux en matière de base en plein cœur du territoire ennemi. 11 000 de nos meilleurs hommes, du matériel neuf, un aéroport, le tout ravitaillé quotidiennement par la crème des aviateurs. Rapidement, Dien Bien Phu devint le lieu à la mode en Extrême-Orient. Ministres, généraux, officiels de tout genre s'y rendaient et tous revenaient persuadés qu'on était sûr désormais de gagner cette guerre. Qui pouvait alors se douter que les Vietnamiens sont des bêtes de somme capables de parcourir des distances hallucinantes avec 200 kilos de matériel militaire sur des vélos rouillés. Qui pouvait s'imaginer que pendant qu'on faisait la bombe avec le ministre de la Défense, le Viet Minh installait, mois après mois, 50 000 tortionnaires armés jusqu'aux dents dans les montagnes encerclant Dien Bien Phu. Le 13 mars 1954, Giap déclencha l'attaque. Il y eut un premier tir de mortier et nos petits gars se dirent « Tiens, t'as vu, il y a un Viet qui s'est perdu. Il est marrant celui-là. » Au deuxième tir, ils se ravisèrent. « Ah ben, ils sont deux. »« Ah non, trois. Il y en a eu un de tir par là. Faudrait peut-être prévenir le colonel. » « On va pas l'emmerder pour si peu, on n'a qu'à se séparer et aller les égouiller. »«
Ouais, t'as raison, on fait ça. »
Mais ils ne revinrent pas. Ils avaient rendez-vous avec l'histoire. Très vite, la bataille fit rage. En moins d'une semaine, le Viet Minh s'empara de l'aéroport, coupant ainsi le pont aérien qui permettait le ravitaillement. La résistance s'organisa autour de Marcel Bijard, le plus grand militaire français de tous les temps. Il faisait partie des 3 000 parachutistes volontaires qui avaient sauté sur Dien Bien Phu. Bijard mit tant de hargne à se battre qu'il fut élevé en plein cœur des combats au grade de lieutenant-colonel. Quand les Viet apprirent la nouvelle, ils voulurent tous s'enfuir. La bataille de Dien Bien Phu fut relatée au jour le jour par la presse française et elle passionna l'opinion. Perdre cette bataille équivalait à perdre l'Indochine. Le commandement français sentait que le pire était en train de se produire. On demanda d'urgence l'aide des États-Unis pour des bombardements massifs. On envisagea sérieusement d'utiliser la bombe atomique pour déloger 2 ou 3 batteries qui posaient problème. Mais hélas, on ne joignit pas les actes à la parole, et le 7 mai 1954, une marée de Viet s'engouffrait dans la cuvette de Dien Bien Phu. Ainsi se termina la bataille la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale. 2 000 morts côté français, 23 000 chez les Viet. Nous avions perdu, mais qu'est-ce qu'on leur avait mis ? 11 000 prisonniers durent faire 700 kilomètres de marche forcée jusqu'au camp. Pour les affaiblir davantage, les Viet leur avaient mis des petits cailloux dans les rangers et beaucoup ne survécurent pas. Bijard sauva l'honneur en parvenant à s'échapper dans la jungle. Il tenta d'organiser la contre-offensive avec des singes, mais il fut repris. On n'avait d'autre choix que de revenir à la table des négociations. Lors de la conférence de Genève, on concéda un Vietnam indépendant le matin et sous la tutelle française l'après-midi. Ho Chi Minh fit un geste brusque pour se recoiffer et tout le monde sursauta. La conférence allait tourner court quand déboula Pierre Mendès France, fraîchement élu, qui proposa un Vietnam indépendant au nord du 18e parallèle. Ho Chi Minh négocia pour le 13e. Mendès trancha pour le 17e. Ho Chi Minh répondit « Top là !» La guerre d'Indochine était terminée. Toutes nationalités confondues, Français, Africains, Indochinois et Légionnaires, nous avions perdu près de 100 000 hommes, tandis que dans la population, on se rapprochait du 500 000 de morts. À la manière de la Corée, le Vietnam se trouva coupé en deux par le rideau de bambou. Après les accords de Genève, il fut franchi par 1 000 000 de personnes, dont 700 000 catholiques, qui accouraient, car la Vierge était apparue dans le sud. Et on a quelques vignettes sympas qui montrent les hallucinations guerrières.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, Je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle aide dans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Normalement, nous aurions dû nous occuper du Sud-Vietnam, mais nous fûmes éjectés par les Américains, au prétexte qu'ils avaient financé notre guerre et qu'on l'avait perdue. Ils aidèrent alors Ngo Dinh Diem à prendre le pouvoir en 1955. C'était un bon catholique qui ne faisait pas de favoritisme entre bouddhistes et communistes. À la longue, il finit par fatiguer les Américains, qui s'arrangèrent pour qu'il soit assassiné en 1963. C'est sûr que si on avait attendu que les bouddhistes s'en chargent, on y serait encore. Entre-temps, la guerre du Vietnam avait commencé. Ngo, refusant de mettre en place le référendum de réunification promis par les accords de Genève, le Viet Minh réactiva dès 1956 la guérilla au sud. Les Américains intensifièrent leur aide militaire, puis envoyèrent directement des troupes à partir de 1965. Mais ont-ils été plus malins que nous? N'ont-ils pas tiré dans le tas sans discerner le bon grain de l'ivraie? Le 30 avril 1975, les États-Unis reconnaissaient officiellement leur défaite. Un an plus tard, le Vietnam était réunifié. Donc, en 1976, le Vietnam a été réunifié après 30 ans de guerre et un siècle de colonisation. Ce pays réduit en infâme tas de cailloux allait être dirigé par le Parti communiste, qui est encore aux manettes aujourd'hui. Or, on sait bien qu'ils n'ont plus rien de communiste et que ça fait belle lurette qui pratique en douce le capitalisme. On se demande bien à quoi ont servi toutes ces simagrées. Enfin, c'est eux qui voient. Et la semaine prochaine, si j'en ai la possibilité, eh bien, va bien falloir qu'on attaque la guerre d'Algérie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.